Bonjour à tous, bienvenue dans la chronique auto sur Radio Pont. Dans cet épisode, je vous propose une balade à Sochaux, fief de Peugeot, pour découvrir la Peugeot 403. La voiture fut présentée au concessionnaire et aux journalistes le 20 avril 1955. N'oubliant pas ses ouvriers, Peugeot avait réalisé un petit film sur ce lancement dont je vous propose un extrait.
Le secret avait été bien gardé malgré la curiosité de tous, et notamment des journalistes, impatients de vouloir informer leurs lecteurs avant la lettre. Il s'agissait de frapper un grand coup au jour J, choisi par Peugeot. Le lancement officiel eut lieu le 20 avril au palais de Chaillot. Tous les concessionnaires y assistèrent, après avoir pris livraison de leur voiture le matin même. La veille, les représentants de la presse avaient été conviés à un essai. À ces deux réunions, les cinéastes des circuits d'actualité, la télévision et la radio étaient présents. Le soir même et le lendemain, ils allaient faire part au public de la naissance de la 403. Les magasins d'exposition étaient prêts, tout l'état-major de la maison était sur le pont et le soleil était de la partie, ce qui donnait un air de fête à cet événement bien parisien.
Pour Peugeot, il s'agit de venir épauler la 203, seul modèle au catalogue depuis 1947. Il faut dire qu'au sortir de la guerre, la marque n'a pas bénéficié des aides de l'État comme Renault, régie nationale. Peugeot a voulu présenter un modèle de milieu de gamme, évitant ainsi la concurrence de la 4 chevaux Renault et de la 2 chevaux Citroën. Il doit s'agir d'un modèle fiable et économique qui puisse se décliner en de nombreuses versions. Une stratégie prudente à une époque où de nombreuses marques ont mis les clés sous la porte. Pour économiser, on reprend la base mécanique de la 203. C'est donc une propulsion avec un essieu arrière rigide équipé du moteur de la 203 qui gagne en cylindrée et une nouvelle culasse. Pour le design, c'est le début d'une longue collaboration avec Pininfarina. Ce dernier n'a pas vraiment eu carte blanche, point de folie donc, mais une carrosserie sobre et harmonieuse qui vieillira bien. Seule originalité, la trappe à essence dissimulée derrière le feu arrière gauche, mode lancé à l'époque sur les voitures américaines et déjà reprise par Simca en France. L'objectif est de séduire les classes moyennes et la petite bourgeoisie, très conservatrice à cette époque. Elle vise également une frange des clients de 203, désireux de monter en gamme ou qui souhaitent une voiture d'aspect plus moderne et plus spacieuse. Le surcoût par rapport à la 203 est important. Les premiers modèles sont d'office équipés d'un toit ouvrant et font 8 chevaux fiscaux. À l'époque, il fallait s'acquitter d'une vignette annuelle qui, au-delà de 7 chevaux, devenait prohibitive. Une manière de se protéger de la concurrence étrangère, allemande et italienne notamment. Ce protectionnisme eut un effet pervers sur les marques françaises. Se sentant protégées, elles n'ont pas investi dans la recherche et la technologie. Ce positionnement tarifaire permet de conserver la 203 au catalogue à destination d'une clientèle moins fortunée. Les deux modèles vont ainsi cohabiter jusqu'en 1960, soit durant 5 ans. 1955, c'est le lancement de la 403, mais c'est aussi l'arrivée de la DS. En écoutant les informations télévisées sur le salon de l'auto, on constate que la 403 est à peine évoquée, contrairement à la DS.
Que nous réservait le 42e salon de l'auto? Peu de révolution. Critère du moindre encombrement pour nos rues encombrées, l'Isetta française sort maintenant en série. Chez Renault, Grand Pavois se manifeste comme le modèle de luxe de la frégate et s'équipe du nouveau moteur étendard. Chez Simca, un modèle nouveau, la ronde 1300, qui présente avec la ligne Océane le nouvel embrayage Simca-matic. Chez Peugeot, la nouvelle production 1956 comporte à côté d'une gamme complète des 203 touristes et utilitaires, la berline 403. Enfin, le clou du salon est sans contredit la DS19 Citroën qui a toutes les faveurs de la curiosité. Ligne hardie et visibilité panoramique, vaste malle arrière, plus de pédales d'embrayage, volant souple à une seule branche, suspension inédite, un ensemble de solutions originales.
Pourtant, la DS aura peu d'influence sur les ventes de la 403, tant les deux philosophies sont différentes. Citroën s'adresse aux clients qui cherchent la technologie et une certaine flamboyance. Alors que chez Peugeot, c'est la fiabilité et une discrétion de bon aloi. Quelques mois plus tard, une version moins coûteuse, sans toit ouvrant, est présentée. C'est un succès, les clients sont satisfaits, la voiture est spacieuse, le coffre le plus vaste de sa catégorie, et le moteur est souple et performant. De plus, la voiture prouve rapidement sa fiabilité, n'ayant pratiquement pas de défaut de jeunesse, contrairement à la DS qui les accumule par dizaines, voire par centaines. Autre concurrente, la Simca R1, qui connaît un beau succès, mais les premières 403 visent une clientèle plus aisée. À cette époque, le marché automobile est florissant et les embouteillages deviennent récurrents à Paris, comme l'atteste ce reportage de 1955.
On compte à Paris 850 000 véhicules, deux fois plus qu'en 1939. Et de nouveaux véhicules, 140 000 par an, s'élancent sur la chaussée, si l'on peut dire. Si personne ne s'arrêtait, les rues seraient encore assez larges. Hélas, les uns stationnent à leur convenance, indifférents au temps qui passe, et les autres, en quête d'une place, sont condamnés au mouvement perpétuel. On sait que le stationnement en double file gêne tout le monde et qu'il creuse entre les êtres un fossé d'incompréhension. Quant à ces deux dames, venues d'ailleurs, elles seraient bien affligées de savoir qu'elles provoquent en toute innocence un encombrement qui va ralentir le trafic sur un long parcours. Avez-vous vraiment besoin de votre voiture, madame ? Le médecin, lui, ne peut se passer de la sienne. N'utilisez pas votre voiture sans nécessité et ne stationnez pas trop longtemps, c'est le conseil du préfet de police.
Très rapidement, la gamme s'élargit avec les versions familiales, commerciales, pick-up, tollé, bâché et cabriolet. Venant d'une marque aussi prudente et conservatrice que Peugeot à l'époque, on peut s'étonner de trouver un cabriolet dans la gamme. Mais pourtant, c'est une tradition qui remonte aux années 30. Pour le cabriolet 403, la mise en œuvre est compliquée. Fabriqué par série de 10, on prend des caisses de berline 403 qui arrivent nues. On commence par renforcer le châssis pour compenser la perte du toit et ainsi conserver une certaine rigidité. Ensuite, on rallonge les portières, la malle du coffre et les ailes arrière. Pour rallonger les ailes arrière, c'est presque chirurgical. On rajoute une moitié de portière arrière à l'aile existante. Pour affiner la ligne, on abaisse le pare-brise de 3 cm. Enfin, les anti-brouillards sont intégrés dans la face avant et ils incorporent les clignotants. Au final, le capot reste la seule pièce d'origine. Mais tout ce travail a un coût important et le cabriolet sera vendu 40% plus cher que la berline, soit quasiment le prix de deux Peugeot 203. Malgré des teintes exclusives et un intérieur cuir, la pilule passe mal et seulement 2050 exemplaires seront produits. Et pourtant, cela n'empêchera pas le cabriolet d'accéder à la notoriété en figurant dans de nombreux films. Belmondo est à son volant dans Le Magnifique et dans La Sirène du Mississippi. La voiture utilisée dans ce dernier film circulerait encore du côté de La Réunion. Mais la plus connue est celle du lieutenant Colombo. Peugeot n'ayant jamais exporté de cabriolet aux USA, l'origine de cette voiture reste un mystère. Il se raconte que Peter Falk, alias Colombo, aurait vu celle de Roger Pierre garée dans les studios de cinéma Universal de Los Angeles. Il aurait alors demandé à la production de la lui racheter. Roger Pierre était un humoriste français bien connu à l'époque et il est vérifié qu'il avait bien importé une 403 cabriolet identique aux États-Unis. Il l'aurait revendue sur place. Une autre version parle d'un salarié d'Air France en poste à Los Angeles qui en aurait possédé une. Peter Falk, lui, a simplement dit l'avoir trouvé dans les studios d'Universal. Une chose est certaine, il y a eu plusieurs modèles tout au long de la série, on dénombre deux immatriculations différentes et deux nuances de gris. Peugeot ayant arrêté le modèle et refusé d'en fournir une au studio Universal, il est probable qu'une voire deux modèles aient été recréés à partir de berline. Si Peugeot n'a pas vendu 403 cabriolets aux États-Unis, en revanche, il y a vendu des berlines. Soucieux de faire entrer des devises, le gouvernement pousse les constructeurs français à exporter outre-Atlantique. Peugeot pourra bénéficier du soutien logistique de Renault pour le transport et la commercialisation, moyennant 20$ par voiture. Parallèlement, Peugeot met en place la New York Peugeot Integrated, qui se charge du service après-vente et des campagnes de publicité. Le succès inattendu fut aussi important qu'éphémère. Les ventes culmineront à 15 000 unités en 1959, avant de s'effondrer en 1961. Cette année-là, la marque dut rapatrier en urgence 1502 voitures invendues. Bien que ce ne soit pas vraiment dans son ADN, la voiture va avoir une carrière sportive avec plus ou moins de bonheur. A noter, une victoire au rallye d'automne en 1957 devant une Porsche Carrera. En 1959 apparaît la version diesel, une première en France et, au niveau mondial, c'est la deuxième marque après Mercedes à proposer une telle motorisation sur une voiture. Cette même année, Peugeot lance une 403 7 chevaux au rabais. On a supprimé le ventilateur de chauffage, le Neyman, on a mis une banquette à l'avant, des manivelles en plastique et les enjoliveurs et le volant proviennent de la 203. Le but de cette 403, à bas prix, est de lui permettre de coexister avec la future 404. La production s'arrête en 1966, soit 11 ans de carrière et 1 200 000 exemplaires produits. Ainsi s'achève cette chronique. Bonne journée à tous sur Radio Pont.
De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, des genêts de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette ère de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre. Ma France, celle du vieil Hugo, tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit on la fusille. Ma France, Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes, ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe. Ma France, leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui fait toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fosses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs. Ma France, celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain. Ma France, qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle, elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles. Ma France.